Ce matin, je vous invite tout de suite à prendre vos Bibles, puisqu'on va aller dans la parole de Dieu ce matin, dans le chapitre 36 des Psaumes. Et ce matin, j'aimerais vous parler de la bonté de Dieu et répondre à cette question, la suivante, qui est le titre de ce message ce matin. Pourquoi suivre l'Éternel Dieu? Pourquoi suivre ce matin l'Éternel Dieu? Et j'aimerais, par ce psaume ce matin, vous montrer pourquoi les Écritures nous disent de suivre l'Éternel Dieu, qu'il le mérite et que ça vaut la peine, etc. Et ce matin, je vous partage les Écritures avec beaucoup de joie et privilégié. J'ai été vraiment béni dans mon temps de vacances, ressourcé. On a passé une semaine au camp Patmos, vraiment béni avec tous les membres de ma famille, frères, sœurs, neveux, nièces, mes parents, grands-parents et autres. On a été vraiment béni. On a amené les enfants pour la première fois à la plage au New Jersey, à la mer. On a été vraiment béni de belles températures. On n'est pas béni cet été d'une température vraiment spéciale, hein? Est-ce que vous le dites au Seigneur combien on est reconnaissant, qu'on ne prend pas acquis ce beau soleil, cette belle température? On n'a pas d'ouragan, on n'a pas de grosses tempêtes, on n'a pas de... Ça a été tellement beau cet été, là, c'était merveilleux. Ça aide beaucoup pour avoir des bonnes vacances, hein? Quand il fait beau demain, à profiter de nos piscines, ceux qui en ont, et de relaxer. C'est vraiment une bénédiction et on a eu un bon temps en famille. En fait, ma femme disait ce matin... Elle dit, je pense que c'est probablement, en fait, elle était convaincue, c'est la plus belle été en famille qu'on a eu à présent. Et je suis vraiment reconnaissant au Seigneur, on a eu un bon temps. Et je prenais aussi conscience que c'était aussi cette année, cet été, ma 12e été avec vous. 12 ans que je suis ici à l'Église baptiste de Trois-Rivières, que vous m'avez appelé comme serviteur, comme pasteur, et je suis vraiment reconnaissant. Je suis béni d'être ici, vous savez. Je suis béni d'être avec vous. Je sens beaucoup de reconnaissance, d'amour et de confiance de votre part. Et c'est pas partout que les pasteurs vivent cela. Beaucoup de pasteurs se battent pour survivre dans leur église. Et ici, je suis privilégié de servir avec des gens que j'aime dans l'équipe pastorale. Je suis privilégié de servir une congrégation qui est ouverte, qui veut avancer. Un paquet de pécheurs qui travaillent ensemble par la grâce de Dieu. Et j'ai ajouté au péché en m'ajoutant à vous. Mais on travaille ensemble, et là où ce qu'il y a du péché, eh bien, on invite le Seigneur à surabonder avec sa grâce, pas pour se complaire dedans, mais au contraire, pour comme ce matin, dans ce temps de louange, d'être reconnaissant de sa bonté. Et c'est vraiment l'angle ce matin que j'aimerais vous partager, la bonté de Dieu. Ce matin, on le chantait, le différent chant qui nous pousse à remercier Dieu. Et quand on remercie Dieu, ce qui se passe, c'est qu'il y a un débordement. Lorsqu'on est ébahi devant la grandeur de la bonté de Dieu envers nous, on est reconnaissant, ça déborde naturellement. Il y a une joie de vivre, une joie de communiquer notre foi. Il y a une joie de donner de l'amour aux autres, de partager Jésus, qui vient naturellement, mais qu'on peut seulement avoir lorsqu'on est vraiment reconnaissant de la bonté de Dieu. Qu'on prend conscience comment il est bon envers nous. Ça crée quelque chose chez nous que rien ne peut forcer, qu'aucune religion, aucun rite ne peut forcer chez l'homme pour changer son cœur, que d'être ébahi devant sa grandeur. Et ce matin, j'espère que ce texte des Écritures va vous faire du bien. Et j'aimerais vous partager, en commençant ce matin, une lecture pendant cet été qui m'a fait beaucoup de bien. Quand je vais en vacances, j'aime amener les Écritures pour le matin. Et dans la journée, j'aime amener un livre de lecture. Peu importe, de fois en fois, c'est très différent. Cette fois-ci, j'ai fait une lecture très différente que ça faisait des années que je reportais et que j'avais hâte de lire. Et c'est ce petit livre. Combien si je dis Shiniki, levez la main, ça vous dit quelque chose. Shiniki. Quand même, je dirais peut-être la moitié savent ce nom-là. Ça dit combien ont lu Shiniki? Donc, il y en a une moitié dans ceux qui l'ont entendu, là, à peu près, qui connaissent Shiniki. Et je dirais que la plupart, là, baissez vos mains parce que peut-être vous allez vous sentir concernés, la plupart n'ont pas été convertis la semaine passée. OK? Ça fait un petit bout qu'ils sont convertis, probablement. Hein? Alors, je ne suis pas en train de dire que vous êtes vieux ou rien de même, là. Mais vous avez peut-être connu le Seigneur il y a déjà plusieurs années. C'est une lecture moins contemporaine aujourd'hui, qu'on fait moins. Le livre est aussi moins vendu, etc. Mais il avait été réédité dans les années 70 et tout le monde qui se convertissait dans les années 70, après sa conversion, lisait la Bible et souvent, quelqu'un leur passait « Shiniki ». Hein? Vous avez vu ça? Allez, Angers, c'est sûr que vous avez fait ça, hein? C'est sûr, sûr, sûr. Les Juliens aussi, allez, c'est sûr que vous avez vécu ça. Et certainement, vous avez été béni. À l'époque, c'était une lecture beaucoup plus contemporaine qu'aujourd'hui. Mais quelle bénédiction ça a été pour moi de lire « Shiniki ». J'ai été béni de voir la bonté de Dieu. La bonté de Dieu envers le peuple québécois des années 1800. Pour ceux qui ne connaissent pas Shiniki, c'est un prêtre qui s'est converti après avoir passé 50 ans dans l'Église catholique. À l'âge de 50 ans, il s'est converti après 26 ans à être un prêtre actif et un prêtre pas peu actif. Un prêtre des plus réputés en Amérique du Nord. C'était l'apôtre de la tempérance. Vous savez qu'au milieu, et juste avant le milieu des années 1800, deux personnes sur cinq, 200 000 Québécois français sur 500 000 avaient adhéré à suivre l'exhortation de Shiniki à être sobre et ne pas prendre une seule goutte d'alcool. Est-ce que vous saviez ça? C'est quelque chose de remarquable. Il a reçu même une médaille du pape et était appelé l'apôtre de la tempérance. Peu de gens peuvent s'attribuer dans l'Église catholique d'avoir eu autant de mérite. Il était un homme qui s'est démarqué de son époque. Et ce qui était particulier, c'est son amour pour les Écritures. Sa mère lui a appris avec son père à lire à partir de la Bible à 9 ans. Alors, il a appris à lire en lisant la Bible. Et donc, il a appris tous les fondements de la parole de Dieu, de la Genèse aux Évangiles. Et ça a vraiment marqué sa vie. Et c'est ce qui a fait que régulièrement, le Seigneur apportait des textes des Écritures pour tranquillement travailler sa conscience pour le sortir. Et il est sorti, alors qu'il était en Illinois, comme prêtre, qui venait de commencer une nouvelle église en Illinois, et ils étaient des milliers avec lui. Des milliers. Quand ils se réunissaient, un seul culte, il y avait 1000 personnes dans la salle. Et des fois, ils se réunissaient à l'extérieur. Et quand il s'est converti, il a partagé ce qu'il vivait, il ne leur a pas imposé rien, et des milliers d'âmes, en un seul jour, se sont converties à Jésus-Christ et ont suivi. Et pendant 40 ans, jusqu'en 1899, il a été un prédicateur de la parole de Dieu jusqu'à l'âge de 90 ans. 40 ans à prêcher l'Évangile, jusqu'à sa mort. À 87 ans, vous savez où il était? Au lieu d'être en train de prendre des vacances, il était en Europe pendant un an de temps à prêcher à tous les jours. Tous les jours! Il venait de se relever d'une année d'arrêt maladie. Mais à 87 et 88 ans, il était en Europe, il a fait l'Angleterre, Paris, la Hollande, ainsi que l'Allemagne. Il avait 87-88 ans avant de revenir chez eux et finalement mourir. Et à travers cette lecture, j'ai été béni de voir la bonté de Dieu parce qu'il y a eu à ce moment-là une vague de conversion qui a troublé l'Église catholique profondément dans ces années-là. Des milliers d'âmes sont venues à l'Évangile et se sont converties à travers la prédication d'hommes comme lui, qui était un pasteur presbytérien, extrêmement évangélique à cette époque-là, les presbytériens, les méthodistes, que tous certains connaissent comme les Wesleyans, les gens qui descendent de Wesley, qui annonçaient l'Évangile avec beaucoup d'ardeur, et les baptistes de la Grande Ligne. C'était les trois mouvements qui annonçaient l'Évangile des années 1800. Et des milliers de gens ont été baptisés dans le nom de Jésus-Christ et qui ont professé la foi et qui avaient comme autorité que la parole de Dieu. Et cet homme-là a été utilisé. Et plusieurs extrêmes ont fait beaucoup de bien. Et entre autres, cette semaine, je rencontrais quelqu'un et me demandait conseil face à des choses qu'il vivait. Puis il dit, ouais, je ne sais pas pour mes motifs. Je suis un peu embêté. Je pense que mes motifs sont bons, mais en même temps, je suis embêté sur mes motifs. Et j'ai dit simplement, faites-en pas, tes motifs sont tout crottés. Ils sont probablement comme les miens. On est tout crottés, nos motifs. On a toujours des bons motifs pour ce qu'on veut. Puis, on ne sait pas se repérer pantoute. Mais j'ai dit, j'aimerais te lire une citation sur qu'est-ce qui est important dans ta quête présentement. Puis, je vous lis un petit extrait d'un paragraphe, quatre lignes qui m'ont marqué. Je ne l'avais pas planifié, mais je vais juste vous le partager. Il dit, « C'est Dieu qui règle les petites comme les plus grands événements de ce monde. Notre principale affaire pendant quelques jours de notre rapide passage sur cette terre d'épreuves et de souffrances est donc de connaître la volonté de Dieu et de l'accomplir. That's it. Il n'y a de bonheur possible pour l'homme dans cette vie comme dans la vie future qu'à cette condition. Il n'y a pas un seul jour, j'oserais dire pas une seule heure de ma longue carrière qui n'ait été pour moi la preuve de cette vérité. Qu'est-ce qui est le plus important, même si j'essaie d'évaluer mes motifs, tout ça, c'est qu'est-ce que Dieu veut et quelle est sa volonté pour moi. Et ça a guidé toute sa vie. Et je vais vous partager peut-être deux extraits ce matin. Mais je vous partage une histoire avant d'entrer dans notre texte qui, je pense, était pour moi une histoire marquante de la bonté de Dieu. Et c'est pour ça que je vous le partage, puisque notre texte parle de la bonté de Dieu à trois reprises dans ses courts 12-13 versets. Trois fois, il mentionne cette bonté de Dieu. Un jour, alors qu'il était prêtre, en 1836, un homme a envoyé une lettre de la prison pour l'inviter à venir le voir. C'était le célèbre brigand Chambers, qui on retrouve encore aujourd'hui sur l'Internet des annales de la bande de bandits de Québec, Chambers et son groupe qui ont été amenés en cour et qui ont été déportés. Et il devait être pendu à mort. Il avait demandé à ce que le curé du coin, qui était M. Chiniki et qui devenait de plus en plus influent, vienne les visiter. Jeune curé qui avait à ce moment-là là, dans la vingtaine. Et il vient les voir et finalement, il trouve des gens réceptifs. Il avait même convaincu deux sœurs d'un de ces hommes-là à devenir de protestantes catholiques. Et là, il a passé un temps avec eux. Et il a commencé à avoir un cœur pour eux, il a commencé à faire le catéchisme avec eux autres, l'expliquer les fondements de la foi. Il leur lisait les Écritures, et ça le démarquait beaucoup chez Nicky. Il rencontrait les gens, et il lisait les Écritures, ce que les autres curés ne faisaient pas en général. Parce qu'il avait un amour pour la parole de Dieu. Et leur vie a commencé à être impactée par la lecture de la parole de Dieu, par les enseignements qu'il... Il allait finalement tous les jours, puisqu'ils étaient condamnés à mort. Et il a commencé à faire des démarches auprès du gouverneur pour avoir un sursis, en fait, pas un sursis, qu'il puisse les exiler au lieu de les pendre pour leurs crimes. Et c'était juste. Ils avaient été condamnés, ils étaient coupables, ils le reconnaissaient. Et finalement, ça a été rejeté. Il l'a essayé une deuxième fois et... Finalement, il a accepté de les exiler. Il avait eu 2 mois avec eux et finalement, ils ont été, à la fin de 1837, exilés. Et il n'a jamais entendu parler de eux. Un jour, alors qu'il est en train de prêcher pendant un an de temps en Australie, en fait, il a passé 2 ans en Australie, combien de fois il a esquivé, par la grâce de Dieu, des tentatives d'assassinat qu'il y a eu à son égard. Il a dû en avoir au moins une cinquantaine dans sa vie, de tentatives vraiment féroces de jésuites, de catholiques pour le tuer. Et un jour, en 1879, 45 ans plus tard, 44-45 ans plus tard, alors qu'il était en Australie, un homme vient cogner à sa porte. Et il demande de rencontrer le pasteur, le révérend Chiniki. Et la dame lui dit de rentrer. Et finalement, il demande pour avoir une entrevue avec lui en privé. Ce que Chiniki accorde, parce qu'il y avait un peu de filtrage, parce qu'il rentrait toutes sortes de gens chez eux. Il était très sollicité. Les gens s'attroupaient souvent autour de sa porte pour qu'il parle du balcon parfois même. Et le rencontrant en privé, et l'homme lui a demandé, « Est-ce que tu te rappelles cette bande de brigands que tu avais visitée en prison à cette époque? » Il dit, « Oui, je m'en souviens bien. » Il dit, « Moi, j'étais l'un d'eux. » Ça faisait 45 ans. Il ne pouvait pas le reconnaître, évidemment. Il dit, « Moi, j'étais l'un d'eux. Laissez-moi vous raconter ce qui s'est passé. » Et là, il raconte la péripétie, comment le leader de gang avait décidé de se révolter dans le bateau et que finalement, il n'avait pas participé. Il explique qu'il avait commencé à lire les Écritures parce qu'ils avaient tous reçu un Nouveau Testament que Chiniki leur avait donné de souci. Et ils ont commencé à lire, il a commencé à lire et au bout de sa première lecture, il était encore plus incrédule puis il trouvait que le prêtre n'était pas très intelligent parce qu'il disait ça n'avait pas l'air à correspondre à la religion catholique. Et il dit, en première lecture, j'ai trouvé que j'étais un peu fou comme curé. Mais il dit, ça m'a eu assez d'impact que je n'ai pas participé à la révolte de Chambers. Chambers, qui finalement a rendu en Angleterre, va être pendu là-bas parce qu'il s'est révolté. Il a essayé, avec quelques personnes, de se libérer et de prendre le contrôle du bateau. Et ça a sauvé sa vie. Et il a continué à faire sa lecture. Il partage comment Dieu l'a éclairé tranquillement dans sa lecture. En 3-4 pages, il explique ce mouvement et de sa pensée. Et finalement, il arrive sur un texte après avoir lu 2 fois le Nouveau Testament dans cette embarcation qui l'emportait pendant 3-4 mois jusqu'en Australie, à Botany Bay. Puis il a lu ces paroles, « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, chargés et accablés, je vous soulagerai. » Il les avait entendus souvent de Chiniki, qui lui rappelait ces paroles. Et là, il arrive dans Jean et il y voici l'agneau de Dieu qui efface les péchés du monde. Ces paroles firent sur moi une impression extraordinaire. Toute la journée, elles retentirent aux oreilles de mon âme avec une force indicible. Ô agneau de Dieu, répétais-je sans cesse, toi qui effaces les péchés du monde, aie pitié de moi, efface mes péchés si nombreux et si grands. La journée n'était pas encore passée que déjà je me sentais délivré de mes péchés. Je me sentais heureux au pied de l'agneau. Et à cette date, j'ai lu l'Évangile avec beaucoup de cette date, profit, et fut toujours dès lors une épée pour mon esprit, une lampe pour mes pieds, un pain et un breuvage pour mon âme. J'avais trouvé la perle de grand prix, le glorieux salut en Jésus-Christ. Pas merveilleux, ça? Témoignage d'un homme qui s'est converti il y a de cela 150 ans, les Écritures qui ont été données, la bonté de Dieu, ce prisonnier, un prêtre lui a apporté la Bible qui l'a converti. Et là, il allait le voir pour le remercier. Le lendemain, il l'a amené après avoir partagé le reste de l'histoire de sa conversion et comment le Seigneur l'avait changé. Au bout d'un an, il a été libéré pour sa conduite. Et finalement, il a commencé à être prospecteur d'or dans une région qui a grandi rapidement. Il s'est acquis une fortune et est devenu un des hommes les plus riches de l'Australie. Il a commencé à acheter des terrains, à spéculer parce qu'il est retourné aux études. Il achetait des terrains et finalement, il s'est construit une ville prospère là, où il avait acheté ses terrains. Il est devenu très, très, très fortuné. Il a amené Shiniki chez eux le lendemain pour rencontrer sa famille. Et après avoir montré tout ce qu'il possédait, il dit, « Monsieur Shiniki, tout ceci vous appartient. Aussi simplement, je vous dois la vie et j'aimerais tout vous offrir ce qui m'appartient. » Et Shiniki a dit ces simples paroles, et je termine l'illustration avec ces paroles qui, je crois, sont tellement justes. En fait, je les ai copiées ici. « Mon ami, je comprends maintenant pourquoi Dieu me donna tant d'influence sur le gouverneur. Ce Dieu bon voulait vous sauver. Et vous êtes sauvés, bénissons le Seigneur. » Il refusa évidemment tout cet argent. Il n'en voulait pas du tout. Il avait l'habitude, où il y avait de l'argent, il dilapidait à donner pour construire des écoles, puis faire tout ça. Enfin, il vendait son cheval comme curé. Fait que les gens ne voulaient même plus donner des chevals parce qu'il vendait pour avoir de l'argent pour les écoles. Puis... Fait que, il a fait comme il était. Il l'a donné. Il a donné toute gloire à Dieu. Bénissons Dieu pour sa bonté qui était manifestée dans sa vie. Voilà la réponse. La seule bonne réponse à celui qui a vu la bonté de Dieu, c'est qu'il bénit Dieu et veut tout lui donner. C'est le débordement d'une prise de conscience que Dieu est bon. Il n'est pas bon envers les autres. Il est bon envers moi. Je suis tellement reconnaissant que je veux lui offrir et rien ne semble être un sacrifice pour lui offrir un débordement. Et c'est ce qu'on retrouve dans ce psaume. En partie. Lisons-le ensemble et après quoi nous allons gratter dans les mots et les vérités de ce psaume pour être que le Seigneur nous rencontre. Je vous lis ce matin à partir de la version Colombe, pour ceux qui auraient une autre version. Alors, des fois, il y a des petits mots qui changent, mais c'est la même vérité de la part de Dieu. Psaume 36. J'ai dit 35? 36, excusez-moi. On termine, dans le fond, une série de quatre psaumes. On l'a fait le 34, 37, 35 et là, 36. Au chef des chantres, ou au chef de cœur, du serviteur de l'Éternel, de David. La parole de révolte du méchant est au fond de mon cœur. Ici, dans le fond, c'est que ça préoccupe mes pensées. Il ne voit pas pourquoi il craindrait Dieu ou pourquoi il devrait avoir de la terreur de Dieu. Il a remarqué ici les verbes qui vont suivre, qui montrent combien le méchant agit et comment ça dégrade. Il dit, « Car il se flatte à ses propres yeux pour consumer sa faute, pour assouvir sa haine. Les paroles, dans le fond, du méchant, de sa bouche, sont fraude et tromperie. Il renonce au discernement, au bien. Il médite la fraude sur son lit ou sur sa couche. Il se tient sur une voie qui n'est pas bonne et finalement, il ne rejette pas le mal. » Vous voyez une pente qui descend dans chacun des verbes, il descend. C'est de plus en plus grave cet éloignement de Dieu, du méchant. Mais, deuxième partie, Éternel, ta bienveillance ou ta bonté atteint jusqu'au Dieu, ta fidélité ou ta vérité, ta constance jusqu'aux nuées. Ta justice est comme les montagnes de Dieu. Il parle ici de la fermeté, de la dureté, de la stabilité. Et tes jugements, comme le grand abîme, insondable, mystérieux, vaste. Éternel, tu sauves l'homme et les bêtes. Combien est précieux ta bonté ou ta bienveillance, ô Dieu! À l'ombre de tes ailes, les humains se réfugient. Ils se rassasient de l'abondance de ta maison. Et tu les abreuves au torrent de tes délices. Et le mot pour délice ici, c'est le mot duquel vient Éden. Quelque chose de vraiment de satisfaisant, d'incroyablement beau. Car auprès de toi est la source de la vie. Par ta lumière, nous voyons la lumière. Étends ta bienveillance sur ceux qui te connaissent et ta justice sur ceux dont le cœur est droit. Que le pied des orgueilleux ne m'atteigne pas et que la main des méchants ne me fasse pas fuir. C'est là que tombent ceux qui commettent l'injustice. Ils sont renversés et ne peuvent pas se relever. Prions ensemble. Père Céleste, ce matin, nous ne lisons pas une simple poésie, un simple chant très ancien. Non, Seigneur, nous lisons les paroles d'un prophète, d'un roi, d'un adorateur inspiré de l'Esprit de Dieu qui a écrit ces paroles qui ont été préservées depuis 3000 ans jusqu'à nous pour encore une fois nous faire du bien, nous instruire. Seigneur, parle-nous ce matin. Rencontre-nous par ta parole. Nous avons lu la parole de Dieu et nous te demandons, Seigneur, comme les Écritures le disent, qu'elle ne revienne pas à toi sans avoir rencontré nos cœurs et nous avoir parlé et avoir fait son effet dans nos cœurs. Rencontre-nous, Seigneur, ce matin, car seul toi peux rencontrer chaque âme qui écoute ce matin dans cette salle ou sur l'Internet, Seigneur, et les rencontrer tous en même temps pour différents besoins d'une manière personnelle. J'implore, Seigneur, ta bonté à cet égard. Rencontre-nous. Utilise-moi, Seigneur, je te prie, par l'Esprit de Dieu. Je te demande en Jésus-Christ. Amen. Mais comme vous avez pu voir dans ma lecture, cette portion des Écritures se divise en trois petites sections, très simples, et tous les écrivains sont en accord avec cette découpure du texte. Les premiers versets parlent de la méchanceté de l'homme. La deuxième partie, les versets 6 à 10, louent Dieu pour sa bonté après avoir vu la méchanceté de l'homme. Et la troisième section fait le lien entre les deux. C'est la conclusion naturelle. Comme beaucoup de psaumes, il y a une conclusion naturelle qui se fait à la fin et on va l'analyser ensemble pour comprendre c'est quoi le lien entre parler de cette méchanceté de l'homme, de parler de la bonté de Dieu. On le voit dans les versets 11 à 13. Et donc, j'ai intitulé « Pourquoi suivre l'Éternel » et trois questions qui vont intituler chacune de ces trois sections pour découvrir clairement le message et qu'est-ce que le Seigneur nous invite à faire ce matin avec ses paroles. Pour apprécier les psaumes, c'est important de toujours revenir aux psaumes 1 et 2. Je l'ai déjà mentionné plusieurs fois, mais je le répète parce que c'est important. À chaque fois qu'on lit un psaume, il faut garder en tête le psaume 1 et 2 qui sont comme l'introduction à tout le livre des psaumes et qui nous aident à comprendre c'est quoi le but. Et dans le psaume 1, on avait parlé, si vous vous rappelez, de l'homme qui est juste et après ça de l'homme méchant et de leur fin, de leur destinée. Ici, on fait l'inverse, on parle de l'homme méchant et on parle de l'homme juste après qui est persécuté par le méchant et on va parler plutôt de leur comportement, du comportement que fait le méchant et on va le décrire. Donc, on aide à comprendre mieux le psaume 1. Ça développe toujours sur le psaume 1 et 2 pour mieux comprendre. Et aussi, si vous vous rappelez, la dernière fois, on est arrivé comme un paroxysme sur la méchanceté. On a lu le psaume 35. Un psaume qui maudit les méchants. Et on a vu comment on pouvait être béni même dans un psaume qui maudit. Et comment on gère cette malédiction-là contre le méchant, ces paroles de « casse-y les dents », puis etc. Bien, vous pourrez regarder ça en regardant le message il y a 6 semaines et comprendre quel était le message de ce psaume 35. Mais c'était un paroxysme de condamnation contre la méchanceté. Et là, ici, c'est comme s'il revient développer après avoir atteint ce paroxysme sur le comportement de ces méchants. Et donc, ces petites choses-là nous aident à comprendre et apprécier ce qu'on est en train de lire ce matin. Bon, le but du message ce matin, trois choses à comprendre que le psaume 36 nous éclaire en relation avec notre Créateur et en rapport avec le méchant. La bonté de Dieu et son aspect dans le quotidien de notre marche chrétienne. Trois questions on va répondre et vous pouvez les noter si vous voulez dans les versets 2 à 4. Que signifie être méchant? Qu'est-ce que ça veut dire être méchant? Deuxièmement, les versets 6 à 10. Que signifie que Dieu est bienveillant ou bon? Qu'est-ce que ça veut dire le fait que Dieu soit bon? Et troisièmement, que signifient ces deux vérités au quotidien? Comment je réponds à ces deux vérités? Et ça, c'est les versets 11 à 13. Donc, trois questions qu'on va tenter de répondre ce matin. En partant, on est dit que c'est une déclaration, un oracle de révolte du méchant. Donc, il y a une déclaration ici très, très importante, puisqu'il utilise le mot « oracle ». Normalement, c'est le mot qu'on utilise pour les prophètes, pour dire « oracle de l'Éternel ». Et là, il prononçait une malédiction sur le peuple ou un avertissement. Ici, il utilise ça pour parler du méchant. Et il dit « cet oracle est au fond de mon cœur ». La seule manière de bien le comprendre, c'est qu'il est en train de dire que ça me préoccupe beaucoup. C'est le mieux qu'on puisse comprendre dans la situation, puisqu'il y a beaucoup de difficultés dans la traduction de cette phrase. Mais ce qui suit est très clair. C'est la description du comportement du méchant. Et veux, veux pas, il faut se poser la question, qu'est-ce que ça veut dire être méchant? Moi, mes filles utilisent ce mot-là en vain continuellement. « T'es méchante! Ils sont méchantes avec moi, papa! » Et là, je suis obligé de leur dire, « Tu comprends pas ce que ça veut dire, méchant. » Parce que sinon, tu ne regarderais pas comment l'autre est méchant. Tu verrais que toi aussi, tu es méchante. Qu'est-ce que ça veut dire être méchant? Parce qu'on utilise, ils sont méchants avec moi. Les gens plus vieux ne l'utilisent pas autant, ces paroles-là, peut-être, qu'on trouve peut-être simpliste, mais les jeunes enfants utilisent ça. « Elle est méchante avec moi! » Mais là, on parle du méchant. Qu'est-ce qu'on veut dire par le méchant? Comment on le définit, être un méchant? Parce qu'il est facile pour nous de se regarder et de dire, « Ben non, moi, je fais des actes de bonté. Je ne suis pas en train de monter des complots pour tuer personne. Au travail, je ne suis pas en train de parler dans le dos du monde ou de congédier des gens juste parce qu'ils me contrarient. » Ou on imagine la méchanceté comme des actes très, très, très virulentes du mal. Hein? On voit ça comme extrême. Les méchants, là, tu sais, c'est les Saddam Hussein, tu sais, c'est Ben Laden. Ça, c'est des méchants. Là. Hitler, c'est un méchant. Là. On est tous d'accord là-dessus, là, tu sais. Mais nous, est-ce qu'on est méchant? C'est quoi notre relation avec le mot méchant? Eh bien, la nature du méchant nous est décrite en partant, tout de suite dans le même verset. Qu'est-ce qu'on dit du méchant? Lisez-le. Excusez-moi si je renifle un petit peu, là. Depuis que je suis revenu là, de la plage, il y a bien des allergies dans le coin. Fait que, on dort bien de ce temps-ci. Alors, la question, quelle est la nature même, dans le verset 2, du méchant? Qu'est-ce que ça veut dire? Il ne craint pas Dieu. Le cœur est méchant, mais plus spécifiquement, il dit, il ne craint pas Dieu. Les mots dans ma version, il dit, il ne voit pas pourquoi il craindrait Dieu. Pour lui, dans sa tête, là, c'est quoi le rapport d'avoir peur de Dieu? C'est niaiseux, ça. C'est simpliste. Et le mot utilisé, c'est pas le mot qu'on a habituel. Ah, c'est gentil, mais j'essaie pas de moucher devant vous autres, par exemple. Là, parce que c'est pas chic, là. On dirait de bord. Le mot qui est utilisé ici pour crainte, c'est pas le même mot qu'on est habitué de voir. On l'a vu dans le chapitre 34, par exemple, dans les versets 8, 9, 10. Le mot crainte est lié souvent à l'homme qui est juste et béni de craindre l'Éternel. C'est le mot plus commun qui est là. Et on dit heureux l'homme qui craint l'Éternel dans les Écritures. Mais là, ici, c'est pas le même mot. Le mot ici utilisé, c'est le mot pour terreur. En bon québécois, là, pardonnez-moi le langage, mais celui qui est la chienne de l'Éternel. Si on veut un mot là, dans ce sens, là. C'est comme ça qu'on le dirait en québécois. Une terreur. Et dans sa tête, l'homme qui est méchant, il se dit, pourquoi j'aurais peur de Dieu? Pourquoi là, je serais terrifié de penser à Dieu? Et ça, c'est la nature même qui nous est décrite de celui qui est méchant. C'est sa première caractéristique. Il ne voit pas le besoin de craindre Dieu, d'avoir peur de Dieu. Donc, il ne reconnaît pas, par ce fait même-là, que Dieu est le Créateur et qu'il a des comptes à rendre pour sa vie. Il ne reconnaît pas qu'il est un pécheur et que Dieu est saint et que Dieu va devoir juger le comportement humain vis-à-vis son Créateur et qu'il y a deux destinées. La présence de Dieu pour l'éternité, qui est appelée le ciel, le paradis, ou cette séparation éternelle de la présence de Dieu qui s'appelle l'enfer, où ce qu'il y a des tourments et le jugement des péchés. Et ce sont deux vérités qui sont dans les Écritures et que le Seigneur Jésus parle, et je n'oserais en parler si le Seigneur Jésus lui-même n'en parlait pas aussi souvent. Et il ne reconnaît pas ces vérités-là. Il ne reconnaît pas l'homme qui n'a pas peur de Dieu, qu'il y a eu un jugement. Dieu a créé le monde et qu'il y a eu un jugement à l'époque de Noé. Et que le monde entier a été jugé pour son péché, et que ce jugement, dont on voit encore l'acte de l'Alliance, qui était l'arc-en-ciel, qui nous rappelle que Dieu ne fera plus jamais ça, mais qu'il y aura un jugement à la fin des temps, tout de même, et que chaque homme va devoir rendre compte. Il ne voit pas le besoin de croire cela et d'avoir peur de Dieu, une peur légitime. On ne parle pas du bonhomme 7 heures, là. On ne parle pas des peurs religieuses pour contrôler le monde. On parle d'une peur légitime, de vérité qu'on trouve dans les Écritures et que Shiniki a lu de son jeune âge et a compris que Dieu est réel, qu'il a créé le monde, qu'on a des comptes à lui rendre et que son Fils est le seul chemin pour s'en sortir et qu'il y a un jugement à la fin des temps et qu'il est juste. Lui ne voit pas ça. Et donc, n'ayant pas la crainte de Dieu, qu'est-ce qui s'ensuit? C'est le comportement qu'on lit. Tout découle de ça. À cause de cela, qu'est-ce qui se passe? Bien, il se flatte. Il se pense bon. Il se trouve intelligent. Et il va se remplir d'orgueil, de connaissance. Et avec beaucoup d'intellectualisme, rejeter la chrétienté, rejeter toute forme de spiritualité, rejeter toute forme de redevabilité à un Dieu quelconque, mais va faire sa propre religion dans laquelle il est confortable. Et une religion, excusez-moi, pardon, mais intelligente, sensée, contemporaine. Il se flatte à ses propres yeux. Pourquoi? Pour consommer sa faute, pour justifier ce qu'il va faire de mal et pas avoir de problème de conscience et d'être correct là-dedans. Et là, on dit le comportement qui arrive dans ses paroles, mais les paroles de sa bouche sont fraude et tromperie. Il renonce au discernement et au bien. Il médite même sur son lit. Il pense à tout ce qu'il peut faire pour frauder, pour tromper, pour acquérir, pour dominer. Il complote contre celui qui fait le bien, qui se sent condamné par son comportement, qui trouve comme un faible et qui veut se débarrasser. Et finalement, il rejette pas ce qui est mal. Il y a une dégringolade, mais ça a commencé avec le fait qu'il ne reconnaît pas que Dieu mérite qu'on ait peur de lui comme créature. Et c'était tellement important que Paul va utiliser ces paroles-là comme le paroxysme, le top de sa liste lorsqu'il va faire la longue liste de comment crotter qu'il est l'être humain. Et j'aimerais vous amener là, gardez votre doigt là, regardez dans Romains chapitre 3, je crois que c'est important de le lire. Puisque ce qu'on est en train de lire dans le psaume 36 est comme si on lisait un peu Romains 1 à 8. Ça se ressemble étrangement beaucoup. Et ces paroles ont été citées par Paul, justement. Paul, dans le chapitre 3 de Romains, fait une liste de 14 chefs d'accusation contre l'être humain comme étant pécheur et condamné devant Dieu. Il fait la liste de comment on est crotté devant Dieu comme être humain. Et il va terminer avec la déclaration que je viens de vous lire comme étant la nature même du méchant. Et je vous lis les versets à partir du verset 10 jusqu'à 18. Il n'y a pas de juste, pas même un seul. Nul n'est intelligent. Et comment on définit l'intelligence? C'est nul ne cherche Dieu. Tous sont égarés. Ensemble, ils sont pervertis. Il n'en est aucun qui fasse le bien, pas même un seul. Tantôt, quand je mentionnais nos motifs, quand j'ai dit à cet ami-là, fais-toi pas, tes motifs sont tout crottés, sont comme les miens. Il faut chercher la volonté de Dieu. C'est pour ça. Parce que je me trompe moi-même dans mes motifs. Je me crée des motifs. Je me donne l'illusion que mes motifs sont bons souvent pour m'amener à faire ce que j'ai le goût de faire. Et c'est ce qu'il dit ici. Aucun fait le bien, pas même un seul. Leur gosier est un sépulcre ouvert. C'est chic, ça, hein? Notre bouche est comme un sépulcre ouvert. C'est comme si on ouvrait une tombe de quelqu'un qu'on déterrait puis on l'ouvrait. Notre bouche est comme ça, ce qu'il y a dedans. Ils usent de tromperie par leur langue. Ils ont leurs lèvres un venin d'aspic. Leur bouche est pleine de malédictions, d'amertume. Ils sont les pieds légers pour répandre le sang. La destruction et le malheur sont sur leur chemin. Ils n'ont pas connu le chemin de la paix. La crainte de Dieu n'est pas devant leurs yeux. Et voilà. C'est comme le top de la liste. Il arrive à la fin puis il punch avec cette déclaration qu'on retrouve et qui est prise par Paul dans le psaume qu'on est en train de regarder ensemble. Que veut dire être méchant? Être méchant, c'est celui qui se donne un raisonnement qui justifie de ne pas avoir peur de Dieu. Un raisonnement qui lui donne raison de ne pas anticiper à rendre compte pour son comportement devant son Créateur. Un raisonnement qui lui permet de faire ce qui lui tente et qui lui donne de l'autosuffisance, de l'indépendance de son Créateur. Et c'est le plus grand péché que l'être humain peut faire, se voir sans avoir besoin de son Créateur. Par ce fait même, il est perdu. Voilà la définition du méchant, celui qui donne tout ce raisonnement-là pour éviter de rendre compte à Dieu. Et tout le comportement qui en découle vient de cette décision-là. Voilà la méchanceté. duquel il demande de l'aide. Il y aurait beaucoup de choses à parler, autre ça, mais je veux avancer pour qu'on puisse garder l'équilibre dans l'analyse qu'on fait de ces versets. Et donc, maintenant que nous sommes éclairés sur la définition du méchant aux yeux de Dieu, nous sommes prêts à comprendre ce que signifie maintenant la bonté et la bienveillance de Dieu dans sa relation avec l'homme, avec sa créature. Et on regarde dans les versets qui suivent, on peut remarquer quatre attributs de Dieu et quatre résultats qu'ils ont sur l'homme qui le suit. Remarquez les quatre attributs qu'on retrouve dans les versets 6-7. On dit que l'Éternel, ta bienveillance ou ta bonté, on parle de ta fidélité ou de ta vérité. C'est le mot qu'on utilise pour dire vérité. Alors, on peut parler de ta constance. Après ça, on parle de ta justice et de tes jugements, qui sont un peu synonymes ici. Ta justice et ton jugement. Et pour les décrire, c'est ce qui est embêtant. Le mot qui est là ici, pour bonté, c'est un mot très, très fort. On utilise à plusieurs endroits dans les Écritures le mot « chesed ». Quand on parle de la chesed de Dieu, la bonté de Dieu, c'est comme si on manque de vocabulaire pour le décrire. C'est comme si le mot, à cause qu'on parle, « Ah, lui, c'est un homme bon. » C'est bon, ça, boué. Mais Dieu, es-tu bon comme ça, boué, ou comme ce bonhomme-là? Et des fois, nos mots, notre vocabulaire humain, hein, vient qu'à comme limiter lorsque ces mots-là sont appliqués à Dieu. C'est comme s'ils en perdent leur force. Vous comprenez ce que je veux dire? On en perd un vocabulaire de valeur pour décrire comment Dieu y est vaste parce qu'on l'utilise tellement au quotidien que... On dit c'est l'enfer. Oh, fait que l'enfer, c'est pas si pire que ça, c'est comme sur terre. T'sais. On en perd finalement le vrai sens. Vous comprenez ce que je veux dire? Qu'est-ce qu'on veut dire quand on parle de la bonté de Dieu? Et donc, dans un langage humain, ce que les psaumes font souvent, on va mettre des images avec cette bonté-là pour la décrire, pour dépeindre comment elle est extraordinaire par des images. Fait que quand je dis ah, c'est un bonhomme, mais je dis pas ah, il est bon comme profond et l'océan Atlantique. Vous me trouverez bien imbécile de dire une chose de même. Hein? Mais dans les Écritures, on va faire quelque chose comme ça pour démarquer la bonté quand c'est utilisé à des termes humains et quand c'est utilisé pour Dieu. On va prendre des images. C'est la beauté de la poésie. Pour amplifier et montrer comment il se démarque de l'être humain. Et regardez ce qu'on dit pour justement la décrire, cette bonté-là. On dit qu'elle est inépuisable et vaste. Comment? On dit qu'elle atteint jusqu'aux cieux. Et sa fidélité jusqu'aux nuées. Est-ce qu'on est en train de dire ici qu'elle est inépuisable, elle est vaste? Jamais on dit une telle chose de la bonté humaine. Ah, sa bonté lui est tellement grande, elle est grande comme les océans. Non, mais Dieu par contre va faire ça. Parce qu'elle est démesurée. Elle n'est pas calculable. Et quand on utilise des termes comme ça dans la poésie hébraïque, on est en train de dire que c'est pas calculable. Personne à ce moment-là pouvait aller jusqu'au top, puis là, on tombait dans l'espace, qu'il n'y a plus d'oxygène, puis dire comment c'est long, là, puis dire bon, ben c'est jusque-là finalement, ça arrête là, gang. La bonté de Dieu, elle arrête juste là, ici. Non, parce qu'on n'avait jamais été là, et donc on utilisait un terme pour dire il n'y a pas de fin. Aujourd'hui, elle est infinie comme la galaxie. C'est ce qu'on pourrait dire aujourd'hui. Tellement qu'elle est inutile. On veut utiliser des termes qui montrent comment qu'elle se démarque. Elle n'est pas comme l'être humain peut se décrire lui-même ou un autre. C'est incomparable. On a juste les images. Et les expériences où ce qu'on vit, qu'on ressent cette bonté, qui nous la font tellement apprécier. Et de son expérience, bien, il utilise ses images. Même chose ce qu'il parle de la justice. Il veut parler comment cette justice-là, elle est fiable, elle est solide, elle est durable. C'est pas comme la justice humaine qu'à chavire avec les pots de vin, que selon les époques, nos jugements changent, nos valeurs changent, la justice va d'une personne à l'autre, ça dépend si c'est une bonne ou une mauvaise journée. La justice de Dieu, comment elle est? Elle est comme les montagnes de Dieu. C'est-à-dire qu'elle est stable, elle est fiable, elle est un repère certain. Elle est comme le grand abîme. Le grand abîme est mystérieux. Elle est insondable, le grand abîme. Et ça veut dire que sa justice, elle nous dépasse tellement qu'elle est grande, tellement elle est immense et mystérieuse pour nous. Parce qu'on est tellement souvent surpris de la justice de Dieu, de la précision. Nous, on regarde notre justice, on n'aurait pas toléré ça. Nous, on voit juste l'apparence. Dieu a cette justice impeccable et parfaite qui nous dépasse. Et c'est comme ça qu'il l'a décrit dans ce langage poétique. Il faut apprendre à l'apprécier en lisant les psaumes pour cultiver ce goût de comprendre ces chants, ces prières, ces poèmes à l'Éternel qui sont inspirés de Dieu. Qu'est-ce qu'elle produit? Mais remarquez les quatre choses qu'elle produit. On dit que dans les versets suivants, l'Éternel, tu sauves hommes et bêtes. Il est en train de dire, c'est dans le fond, toute la création. Toute la création, parce que vous savez, le Seigneur aime sa création. Aime les arbres, les océans, aime les animaux qu'il a créés, qui sont sa main. Il n'en peut pas en prendre respect. Et ici, je ne suis pas un tree hugger, là, je ne suis pas un Greenpeace, mais je suis en train de dire que c'est la création de Dieu, il faut l'apprécier à sa telle valeur. OK? Que c'est une création de Dieu et Dieu dit sa bonté elle va sur l'être humain et sur sa création, toute sa création est d'une valeur à Dieu. Et cette création-là nous révèle la bonté de Dieu elle-même. Mais regardez bien, combien est précieuse ta bienveillance en l'Éternel, à l'ombre de tes ailes, les humains se réfugient. Ils ont une place pour se protéger. Il se rassasie de l'abondance de ta maison et tu les abreuves au terrain de tes délices ou de ton jardin d'Éden, littéralement, de ton Éden. C'est le mot utilisé pour délices. C'est délicieux comme Éden. Ça veut dire que c'était beau, c'est parfait. C'est auprès de toi qu'est la source de la vie et la lumière pour que nous voyons la lumière. Donc, il est source de quatre choses. Il parle ici, et un auteur l'a souligné de cette façon suivante. Il a mis délicieux comme la joie. Il parle de satisfaction, il parle de joie, il parle de vie, il parle de lumière. Ces choses qu'il donne à Malone. Et la première lecture, elle est au niveau terrestre. La deuxième lecture, bien, c'est dans le Nouveau Testament, son application ultime avec Jésus-Christ qui dit « Je suis le chemin, la vérité et la vie », qu'il a la vie éternelle à offrir, qu'il a la lumière du monde à offrir, vous comprenez? Qu'il est le pain de vie. Ça, c'est la deuxième lecture. Quand on prend le Nouveau Testament et qu'on voit finalement comment ça s'applique à Jésus-Christ et qu'il est l'ultime accomplissement de tout ça. Mais ici, il en parle un terme terrestre aussi, qu'il rassasie, il donne de l'abondance, il y a une richesse dans la bonté de Dieu qui pourvoit à ses enfants. Ça ne veut pas dire qu'on vit dans une richesse démesurée. Dieu merci, Seigneur, nous empêche d'avoir certaines richesses. Il nous empêche certains d'être riches parce qu'on ne saurait pas le gérer. Probablement, ça nous égarerait de lui. Et le Seigneur nous protège de cela. Mais soyons bien clairs, ici en Amérique du Nord, on est riche. On est très riche lorsqu'on se compare ailleurs. Ce n'est pas à qui qu'on veut se comparer. Oui, Trump est plus riche que moi. Bill Gates est plus riche que moi. Mais ils sont une minorité. Ce n'est pas à eux que je veux me comparer. C'est à ceux qui sont dans la pauvreté. Et là, je regarde ça et je dis, ouais. Joël, t'es gros dur, t'es pas mal gâté. Et là, tout à coup, tu dis, ouais, merci Seigneur que j'ai l'occasion de donner. J'ai aimé ce que notre frère tantôt a parlé, de donner de cette abondance qu'on a. Dieu n'a pas de besoin. Dieu peut s'en passer. Dieu nous rend service. Il donne l'occasion de donner parce qu'il sait que c'est salutaire pour nous. Pour utiliser les mots que Pasteur Benoît a utilisés il n'y a pas longtemps. C'est salutaire pour nous de donner parce qu'on devient, ça nous évite de tomber esclaves de l'argent parce qu'on le met en premier et qu'on donne. C'est pour se protéger soi-même, pour s'éviter de s'égarer du salut de Dieu. Et donc, c'est salutaire de donner. Et il utilisait même le terme de donner vous sauve. Mais vous comprenez ce qu'on veut dire dans le contexte. Hein? Et ça vient de ce débordement de reconnaissance. De voir comment Dieu est bon envers moi, que je ne le mérite pas plus qu'un autre. Pourquoi moi j'ai ça et l'autre l'a pas? Ce n'est que pure grâce et cadeau de Dieu. Et quand je le constate, j'en vis plus l'autre. Je suis heureux du bonheur de l'autre. J'ai le goût de donner à quelqu'un qui vit des moments difficiles, sans jugement que moi je ne dépenserai pas de telle manière. On est toujours plus brillant que l'autre. Hein? C'est parce que je gère mal. Là, tout à coup, on peut passer par de ça et dire, ah, Seigneur, est-ce que je peux aider? Est-ce que je peux donner? « Ah, merci du plaisir que tu me donnes de le faire. » Parce que je vis du débordement de la bonté de Dieu. Vous comprenez? Ça ne se crée pas, ça ne se force pas, ça ne fait pas partie d'une liste de choses que je peux faire. Ah, ben là, cette semaine, là, je vais être généreux. Il faut que je cherche une occasion pour être généreux. Là. Ça vient d'un débordement. Dieu ne veut pas un acte de religiosité. Il ne prend pas plaisir au sacrifice, il dit, hein? Ce n'est pas les sacrifices qui prennent plaisir, mais ce cœur qui est donné à lui. Ce cœur qui lui est donné sincèrement. La bonté de Dieu, décrit en tant de termes, est décrit dans des termes ici de ce qu'elle produit dans nos vies. Comment elle est profitable pour nous, cette bonté de Dieu. Comment elle est profitable et qu'elle nous amène, je dirais même, la bonté de Dieu au salut en Jésus-Christ, puisque toutes ces paroles, comme je vous ai dit, s'appliquent dans la personne de Jésus-Christ. Il est ultimement, on dit, celui qui donne la vie en abondance, avec satisfaction. Celui qui est le pain qui donne la vie, qui est l'eau de vie. Ici, il parle des torrents qui s'abreuvent de délices. Non, lui, il est l'eau de vie. Il est la lumière, pas juste pour t'éclairer, du monde. Vous voyez, les termes tout à coup à Jésus-Christ s'appliquent directement à lui comme ultimement la démonstration de la bonté de Dieu envers nous dans la personne de Jésus-Christ. La démonstration. J'aimerais vous lire pour cela un extrait, quelques petits extraits de la conversion de M. Shinicky, qui a utilisé, et c'est pour ça que ça m'a accroché, cet aspect-là de la lumière. Dans son cheminement. Il est rendu après 50 ans dans l'Église catholique. Toute sa vie, il s'est craqué à croire qu'il faut que je me soumette à mes évêques. Et s'ils font une erreur, c'est pas grave, c'est eux autres qui vont rendre compte pour ça. Moi, je me soumets. Et là, à la fin, il a décidé que la dernière soumission qu'il avait à signer, il allait signer dans la mesure où ce que c'est en harmonie avec les Écritures, avec les Évangiles. Parce qu'il fallait toujours qu'il signe une déclaration de soumission aux évêques. Et l'évêque l'a reçu, puis après un jésuite est passé, puis il a vu ça, il a fait revenir Shinicky d'une retraite de repos que l'évêque lui avait donnée, et là il lui a dit, je ne peux pas accepter ça. Pourquoi tu as écrit ça? Bien, parce qu'il dit, j'ai décidé que je pouvais me soumettre à vous, mais dans la mesure où c'est harmonieux, puis que ça suit les saintes écritures qui sont bien au-delà de vous. C'est ça que ça veut dire. Bien, si c'est de là, ça, vous enlevez, vous biffez toute cette partie-là, c'est soumission, poil à la ligne. Il dit donc, je ne peux pas signer. Il s'est viré de bord sans destination et il est se retrouvé seul dans sa chambre en 1858. Et voici les réflexions qu'il avait dans son esprit. Peut-être des réflexions que vous vous rappellerez que vous avez vécues ou peut-être des réflexions que vous vivez maintenant face à l'acceptation du salut en Jésus-Christ. Il dit, je vis clairement que mon Église ne pouvait pas être l'Église de Jésus-Christ. Cette accablante vérité ne m'était pas démontrée par des protestants ou par d'autres ennemis de l'Église romaine. Elle venait de me l'être prouvée elle-même par la bouche d'un de mes meilleurs évêques. Elle était l'ennemi mortel, irréconciliable de l'Évangile, comme j'avais si souvent soupçonné. Parce qu'il partage comment souvent il y avait des doutes, mais que dans ces moments de doute, il en parlait pas mal, là, il décrochait du doute puis il continuait. Mais ça revenait continuellement à son esprit depuis des années, différentes choses. Ce fut là, seul à genoux, en la présence de Dieu, que je vis clairement que c'était sa voix divine qui m'avait si souvent averti de ces choses, sans que j'aie jamais voulu entendre et la suivre. Mon Dieu, non, qu'est-ce que j'ai fait? Mais le Seigneur, il dit ceci, mais le Seigneur, où donc est votre Église? Où dois-je aller pour être sauvé? Parce qu'il n'est pas encore sauvé. Et là, il va parler de comment qu'il est dans le désespoir. Il partage dans sa prière comment il est seul. Et là, ça faisait un heure qu'il est dans la prière, seul, la solitude. Après ça, il a commencé à avoir une vision de son désespoir. Et voici comment elle était, cette vision-là. Il voyait une colline qui était remplie de ses péchés et que cette colline-là roulait vers lui. Et là, l'écrasait d'une manière qu'il ne pouvait pas rien faire. Il était dans l'angoisse, seul. Il était immergé et au désespoir à un tel point qu'il dit ceci. « Ma raison en désordre était prête à m'échapper. Tous les objets tournaient autour de moi et je me sentais pris de vertige. » Donc, il était pris dans une angoisse tellement forte que c'était la panique totale. La vie, tout à coup, m'aperçut comme insupportable, fardeau. Il me semblait que la plus grande des bonheurs serait de mourir. Le dirais-je? Oui. En cet affreux moment, je pris mon couteau pour m'ôter la vie en me coupant la gorge. Mais Dieu qui voulait que je boive la coupe d'humiliation jusqu'à la lier ne voulait pas ma mort. Il me regarda dans sa compassion et me secourut. Et là, il raconte qu'est-ce qu'il a compris de Dieu. « Mais Dieu, mon Dieu, aie pitié de moi. Je me rappelais alors que j'avais avec moi le Saint-Évangile. Et il me vint à la pensée que je trouverais dans ces pages la réponse à ma prière. Et la lumière dont j'avais besoin, encore la lumière, d'une main tremblante, et en faisant monter au ciel une ardente prière, j'ouvris le Saint-Livre au hasard, mais non, ce n'est pas moi qui l'ouvris. La main miséricordieuse de mon Dieu conduisait la mienne. Car mes yeux tombèrent sur les versets 23 du chapitre 7 de 1 Corinthiens qui dit « Vous êtes rachetés à grand prix. Ne vous faites pas les esclaves des hommes. » Chose étonnante, ces paroles n'arrivèrent pas à mon intelligence comme des paroles ordinaires. Elles m'atteignirent comme des jets de lumière. Ils me révélèrent à l'instant, pour la première fois, autant qu'on peut le comprendre ici-bas, la grandeur du salut par Jésus-Christ. Ma raison, d'accord, avec ma conscience, me faisait entendre le langage nouveau. Jésus-Christ, et là c'est la déclaration centrale, Jésus-Christ t'a racheté, donc tu es à lui. Lorsque tu as été acheté un objet, il est à toi seul. Jésus t'a racheté, tu es donc sa propriété, tu lui appartiens, lui seul a un droit absolu sur toi. Tu n'appartiens pas au pape, à l'évêque ou même à l'Église, comme tu l'as cru jusqu'à cette heure. Tu appartiens à Jésus et à Jésus seul. C'est donc sa parole seule qui doit être ton guide pendant le jour de ta lumière, pendant la nuit. Et si Jésus t'a racheté, il t'a aussi sauvé. Il t'a sauvé. Il était parfaitement sauvé. Les œuvres de Dieu sont parfaites. Ton salut est donc une œuvre parfaite. Tu ne pouvais pas me sauver à moitié. Et comment t'a-t-il sauvé? Quel prix a-t-il donné pour ta rançon? Il a versé son sang jusqu'à la dernière goutte sur la croix. Il a donné sa vie sur le calvaire. Mais si c'est le sang et la mort de Jésus qui t'ont sauvé, tu n'es donc pas sauvé comme l'Église te l'a si souvent dit. Par tes prières à Marie, tes confessions, tes messes, tes scapulaires, tes indulgences, tes pénitences, ni par aucune de tes œuvres, tu es sauvé par Jésus seul. Amen. Quelle profession de foi merveilleuse que Dieu a produit dans son cœur et que tout a changé sa vie. Et quand je lis ça, il y a un seul mot qui me vient à la pensée. C'est la bonté de Dieu qui se révèle à l'homme et qui montre la solution dans son désespoir. C'est ça la bonté de Dieu. Elle est là. Je me tromperais. Il pensait après ça, il a commencé à avoir un moment d'angoisse, puis il sentait être encore seul avec Dieu. Et il dit, je me trompais. Après 8 à 10 minutes de cette angoisse, ces rayons d'une pure lumière perçurent les ombres nuages qui m'enveloppaient. Au milieu de cette lumière, je ne pouvais pas me tromper. Mon sauveur se montrait à mes yeux étonnant. Oui, c'est bien lui. Il semblait écrasé sous le pied de sa pesante croix. Sa figure ensanglantée était couverte de crachats et je voyais les épines qui déchiraient son front et les clous qui perçaient ses mains. Il s'avançait lentement vers moi, me regardait avec une expression de compassion et d'amour qu'aucune parole ne saurait rendre. Quand il me fut qu'à une petite distance, il me dit, « Mon cher enfant, j'ai entendu tes cris, j'ai vu tes larmes, je viens t'offrir à toi comme le don de mon Père t'envoie. J'ai payé tes dettes. Veux-tu me donner ton cœur et m'aimer? Veux-tu prendre mon évangile comme ta seule lumière? Je t'apporte la vie éternelle comme un présent de mon Père. » Et c'est là qu'il a vécu sa conversion. Je voudrais vous dire ceci, que ce témoignage est un bel exemple, aussi simple que cela, de la bonté de Dieu qui prend un homme, qui le sort de ses pensées perdues, le libère complètement et lui donne la pensée de Dieu pour qu'il comprenne qu'il peut être libre. Voilà la bonté de Dieu qui illumine le cœur humain. Voilà la bonté de Dieu qui libère l'homme esclave de ses péchés. Voilà la bonté de Dieu qui libère l'homme de la religion afin d'être en relation avec Dieu. Voilà la bonté de Dieu qui sort l'homme de sa misère pour en faire un fils de Dieu, du Dieu Tout-Puissant. Et voilà enfin la bonté de Dieu qui pardonne et assure la vie éternelle avec celui qui est l'Éternel, son Créateur. Regardez avec moi ces dernières paroles qu'on va lire en terminant. Voici maintenant sa prière, là qu'il a compris la bonté de Dieu. Il a compris comment l'homme est méchant. Maintenant, il met en pratique ces deux vérités par la prière qui suit. Il fait cette demande étant à l'impératif, ta bonté, ta bienveillance sur ceux qui te connaissent, ta justice sur ceux dont le cœur est droit. Il parle de ceux dont le cœur est droit parce qu'il y en a gros qui donnent l'impression, mais les vrais qui ont le cœur droit. Que le pied de l'orgueilleux ne m'atteigne pas, que la main des méchants ne me fasse pas fuir. » Donc, il reprend dans le verset 12 les méchants dans la première partie, parce qu'il semblait être en danger. Il demande sa protection. Et il reprend la bonté de Dieu dans les versets précédents, au verset 11, pour demander qu'elle vienne sur celui qui a la connaissance et qui a le cœur droit, qu'elle vienne sur lui. Il demande que sa bonté soit sur lui, parce qu'il en a besoin de son aide devant le fait qu'il y a des méchants et des orgueilleux qui planifient contre lui, qu'il a des obstacles devant lui et qu'il n'a pas le contrôle dessus. Et puisque Dieu est au contrôle de tout, « Seigneur, interviens, j'ai besoin de ton aide. Je reconnais mon insuffisance et je reconnais ta toute suffisance par ta bonté pour régler ma situation. Autant pour mon salut, autant pour ce que j'appelle mes petits problèmes du quotidien que j'ose pas amener à Dieu. Tout comme mes grosses inquiétudes qui me créent de l'angoisse. » De lui abandonner. Et regardez la fin de sa prière. Non seulement il la demande maintenant, mais il le prend comme si c'était fait. Il dit maintenant au présent, « C'est là que tombent ceux qui commettent l'iniquité. » C'est le présent. Par la bonté de Dieu, c'est là qu'ils tombent. Ils sont renversés et ne peuvent pas se relever. Par la foi, il dit, « Seigneur, déjà à la fin de sa prière, merci Seigneur, parce que tu le fais déjà. » Je ne le vois peut-être pas tout. Les détails de comment ils tombent, les méchants. Je ne vois peut-être pas toute ta protection. Je ne vois peut-être pas toute ta bonté, comment elle découle sur moi précisément, là, parce que je manque de regard sur moi objectif. Mais par la foi, je sais que tu le fais déjà, parce que dans le psaume 1, il est écrit, « Le Seigneur connaît la voie des justes, et la voie des pécheurs mène à la ruine. » Par la foi, je l'accepte et je le sais, après avoir prié. L'homme est méchant. Dieu est bon. Il est la solution pour intervenir dans notre quotidien devant cette réalité de la méchanceté qui nous entoure. Mais aussi, n'oublions pas que la méchanceté se trouve aussi chez nous. Lorsqu'on voit la méchanceté chez nous, ça nous donne de la grâce devant la méchanceté des autres. Et qu'il ne faut pas trop vite lancer la pierre aux autres, mais regardez moi qui ai reçu la grâce, comment est-ce que moi, je vis avec cette bonté de Dieu. Suis-je en train de la prendre pour acquis? M'assire sur la bonté ou de la jubiler chaque jour? En profiter. Et on remarque qu'à travers ça, bien, sa louange à Dieu l'aide à garder le cap. Il loue Dieu comme on l'a fait tantôt ce matin. J'ai tellement aimé ça, ces chants qui ont été choisis, de louer Dieu. Et tout à coup, nos regards se tournent vers Dieu et nos cœurs changent parce qu'on contemple sa bonté et l'on ne regarde plus nos problèmes, on ne regarde plus ma tristesse, on ne regarde plus tous mes états d'âme, mais ils trouvent leur solution dans la présence de Dieu, en le louant. Non que louer Dieu, c'est une formule magique. Louer Dieu nous recentre. Et c'est ce qu'il fait dans l'expression. Il partage ce chant comme un débordement de son adoration, de sa reconnaissance. Allons à la prière, s'il vous plaît. Seigneur, il est si facile de regarder autour de soi et de voir les hommes qui périssent autour de nous qui sont méchants. Mais Seigneur, combien il est difficile pour nous de se regarder soi-même en prenant les Écritures et de regarder, Seigneur, que toi, tu veux me parler à moi, tu ne veux pas que je regarde autour, tu veux que je prenne les Écritures, que je regarde ce que toi, tu as à me dire sur moi, Seigneur. Qu'as-tu à me dire, Seigneur, à moi, personnellement? Que veux-tu me dire, Seigneur, par ces paroles de ce psaume qui parle de la méchanceté humaine? Seigneur, est-ce que moi, j'ai cet esprit d'indépendance envers toi? Est-ce que moi, je minimise que je devrais avoir une saine peur de toi? Est-ce que moi, Seigneur, je vis indépendamment de toi et que j'ai besoin ce matin de répondre à cette main gracieuse qui m'offre ta bonté, qui m'offre le pardon? Ô Seigneur, protège-moi de me flatter, de me penser intelligent, de me donner des raisonnements. Seigneur, nous sommes aujourd'hui, le 26 août de l'an 2012, de l'ère de grâce après Jésus-Christ. C'est un jour de grâce. Rien ne nous est acquis sur cette terre. Ce jour est un cadeau de ta part. Seigneur, aide-moi à ne pas le prendre pour acquis. Que s'il y a des décisions que je dois prendre aujourd'hui, Seigneur, que je les prenne. Pourquoi, Seigneur, te suivre aujourd'hui? Parce que tu es bon. et que tu es la solution à la méchanceté dans mon cœur et la méchanceté qui m'entoure. Et qu'auprès de toi, il y a refuge, il y a un endroit de repos, Seigneur, dans lequel je peux trouver la paix, me sentir bien, me sentir protégé, satisfait avec ce que j'ai, sans être en train de regarder autour toujours. Oh Seigneur, donne-moi cette satisfaction de ta présence, mais donne-moi avant tout de reconnaître que je suis ce pécheur qui a besoin de toi, désespérément, et qu'aujourd'hui est un jour de grâce pour encore une fois dire, Seigneur, je veux te suivre, te demander pardon, m'engager dans tes voies, dans ton chemin. Et j'ai besoin de toi pour y arriver. Je n'y arriverai pas seul, Seigneur. Peut-être ce matin, es-tu dans une situation où tu as toutes sortes d'angoisses. Et Seigneur, t'invite à lui abandonner tes soucis, cette inquiétude conjugale, familiale, au travail, d'amitié, cette inquiétude sur l'avenir, ce conflit pas réglé. Peu importe ce qui est cette tristesse, un deuil, peu importe ce qu'il y a sur ton âme, Seigneur, on peut te confier ces choses ce matin et savoir que ta bonté en prend soin et que c'est la solution, la seule, dans ce monde de méchanceté. Merci, Seigneur, que tu es un refuge fiable, certain, et que tu nous offres une justice fiable et finale dans laquelle on n'a pas à avoir d'inquiétude. Donne-nous, Seigneur, cette confiance dans tes Écritures, cette confiance quotidienne en toi. Donne-nous cette paix quotidienne que nous avons si besoin pour avancer, Seigneur, avec zèle dans ta suite. C'est dans le nom de ton Fils, Jésus-Christ, qu'on te prie et qu'on te remercie. Amen. Amen. Que le Seigneur vous bénisse.